pour toutes les générations, conçu et réalisé par les jeunes de plus de 60 ans de Haute-Garonne.
Bienvenue dans notre nouveau rendez-vous bimensuel Génération. Au programme de cette émission de mars, vous comprendrez comment la curiosité nous préserve d'un sinistre vieillissement avec Josie. Car à Génération, pas de souci, on reste curieux et passionné. Suivons Annie sur plusieurs épisodes pour découvrir l'histoire du crayon. Et du crayon à la mine, Christine nous livre sa plume, Christiane sa chanson. Et enfin Martine nous fable Nougaro.
Malade, toi, seule peut me guérir.
Comment bien vieillir? Pour la plupart des personnes, vieillir n'est pas un sujet agréable. Les rides font leur apparition, les mouvements deviennent de plus en plus incertains et la vue diminue. Mais bonne nouvelle, être senior et bien vieillir, c'est possible. Voici quelques conseils pour bien vieillir et garder santé, forme et vitalité. Étant dans le sud-ouest, commençons par le bien manger. Une alimentation saine et équilibrée est aussi très importante pour bien vieillir. Le régime alimentaire doit être varié et riche en légumes. Il est également conseillé de limiter la consommation d'aliments gras, en particulier s'ils proviennent d'animaux, et de faire attention à la consommation de sel, tels que les saucisses, les plats cuisinés, les aliments en conserve, etc. Les aliments gras favorisent le cholestérol et les triglycérides élevés, tandis que le sel contribue à l'augmentation de la pression artérielle. Ce sont des situations à éviter car ils provoquent des dommages cardiovasculaires. Enfin, l'alimentation doit être pauvre en sucre raffiné, gâteaux, biscuits, boissons sucrées, etc. Car ces aliments favorisent l'augmentation de la glycémie, autre facteur de risque pour la santé cardiaque et sanguine.
S'il faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux, j'y vais.
Pratiquer une activité physique n'est pas nécessairement pratiquer un sport. De simples mouvements quotidiens suffisent, comme la marche, le vélo, le ménage, le jardinage, la danse. Pratiquer régulièrement une activité physique permet de limiter les risques de souffrir. À terme, de nombreuses pathologies, dont divers cancers, le diabète, la maladie d'Alzheimer, l'ostéoporose et les différentes maladies cardiovasculaires. Entretenir sa condition physique permet de conserver son autonomie plus longtemps. Je vous conseille de dormir suffisamment. Le manque de sommeil a des conséquences négatives sur la concentration et la mémoire.
S'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu, j'y vais.
Comme un tout premier regard,
le début de mon histoire. Et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre, d'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera.
Il est la voix qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte.
Tiens dans mes ouvertes.
Dans la prochaine émission, je vous parlerai comment entretenir sa mémoire et son intellect, et Michel Serres nous en parle pour bien vieillir.
Maintenant, comment on fait pour ne pas vieillir prématurément dans facile. Son corps et dans sa tête?
C'est très facile. Au fond, le problème du vieillissement et la manière de se défendre a trois solutions et trois seulement. Une mauvaise, une moyenne et une excellente. Il se trouve que l'excellente est complètement oubliée. Il y a une mauvaise solution, c'est ce qu'on pourrait appeler les cosmétiques. On peut arranger les choses, avoir un faux nez, avoir des faux seins, etc. Ça, c'est la plus mauvaise des solutions parce qu'elle ne marche jamais. Et pourtant, c'est celle la plus répandue. Elle ne marche jamais. Il y a une seconde solution qui est déjà un peu meilleure, que j'appellerais la solution gymnastique. C'est-à-dire continuer à faire de l'exercice, ce qu'il faut. C'est lorsqu'un médecin vous dit, pour ne pas vieillir, faites de l'exercice, tout le monde les croit. Et ils ont raison. Mais ça a des limites. Je ne peux pas, à 60 ans, sauter 1m80 en hauteur. Beau m'entraîner, je n'y arriverai pas. Et la troisième solution, qui est complètement oubliée, que personne ne pratique, et qui est pourtant de loin la meilleure, c'est la suivante. Elle est intellectuelle. Si un médecin vous disait un jour, si vous voulez ne pas vieillir, vous devez tous les jours faire de l'exercice physique, mais aussi un exercice un peu intellectuel. Lisez quelque chose d'un peu plus difficile que ce que vous arrivez à comprendre. Alors, votre intellect est toujours éveillé et la véritable jeunesse passe par l'esprit. Et nous l'avons complètement oublié. On préfère les cosmétiques, on préfère l'exercice physique et on oublie que ce qui vieillit le plus vite, c'est les facultés d'adaptation et les facultés de culture. L'effort intellectuel, l'effort de compréhension, si on l'oublie, on est un vieillard à 30 ans, on est un vieillard à 25 ans, on est un vieillard à 40 ans. Tandis que, essayer de comprendre une chose difficile, essayer de se réadapter à un monde inattendu ou imprévisible pour vous, est la véritable solution.
S'il fallait traverser les mers pour embraser les terres de feu, j'irai retrouver mes rêves d'hier pour leur donner le monde en mieux. J'y vais quand le passé me distance.
L'écriture, le crayon. L'écriture, en fait, a toujours eu un rôle essentiel dans ma vie. Je me souviens des écrits dans ma classe de l'école primaire. À l'époque, l'instituteur nous faisait la dictée. S'il y avait des fautes, il cognait la tête contre le pupitre. J'avais la chance de ne pas faire beaucoup de fautes. En tout cas, je ne me souviens pas d'avoir bénéficié de cette douce méthode. Peut-être parce que j'avais mis au point un système de protection. Quand je sentais la présence de l'instituteur au niveau de mon épaule, je me servais aussitôt de mon buvard. Est-ce que je dois mon goût pour l'écriture à cet instituteur? J'en doute. J'adore écrire des mots nouveaux, des jolies phrases. C'est aussi un moyen d'exprimer mes souffrances et ainsi de les évacuer. C'est en cours de calligraphie que j'ai découvert un livre sur les instruments de l'écriture. Je l'ai donc acheté. Il me permet aujourd'hui de vous parler du crayon. Il y a quelques jours, nous avons évoqué la mine du crayon, son origine, sa fabrication. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler du crayon, ce petit bout de bois si présent dans notre quotidien. C'est un menuisier allemand qui s'attaqua le premier à l'habillement de la mine. Il a eu l'idée de créer une goulotte en forme de U, fermée par un coulisseau faisant office de couvercle. Le crayon dit coulissette. Le menuisier allemand se reconvertit dans les objets d'écriture. la maison Faber était née et allait se développer. Le bois du crayon doit être suffisamment tendre, mais surtout sans nœuds et sans fibres, pour donner une taille impeccable. Ces exigences réduisent l'éventail des essences d'arbres utilisables. Le genévrier, cadre, ou plus fréquemment le cèdre, dit cèdre à crayon, pencil cédar, que l'on trouve dans le sud-est des États-Unis, en Floride et en Alabama. Pour les crayons de consommation courante, on recourait au tilleul, plus commun et moins onéreux. Enfin, il faut mentionner que certaines gaines étaient réalisées à partir d'une feuille de papier ou d'une lamelle faite de bois enroulée sur elle-même autour de la mine et que l'on déroulait au fur et à mesure de l'usure du crayon. La forme de ces gaines varie énormément, entre un crayon géant mesurant 31 cm de long et un crayon carnet de balle ne faisant que 3,5 cm de long. Les bouts de ces gaines peuvent être effilés en forme de cône ou intégrer une finition en os, en métal, parfois susceptible de fixer un morceau de gomme. Les rainures qui vont recevoir les mines séchées sont effectuées au cours d'une simple passe de planchette dans une machine à lame rotative.
Hey, monsieur, dessine-moi une chèvre.
La phase suivante va associer les deux éléments ainsi fabriqués. Les mines, trempées préalablement dans une colle liquide, sont placées dans ces logements et une planchette enduite elle-même de colle est appliquée comme un couvercle sur celle contenant les mines. Imaginez l'ensemble, tel un sandwich, et serré dans une presse. Le jeu de la raboteuse dessine ensuite la forme des crayons.
Hey, monsieur, c'est seulement une chèvre.
Tu vas pas que je suis occupé, non ?
Ces baguettes sont ensuite polies par des tambours revêtus de papier de verre, puis vernis au tampon ou laquées selon le type de crayon. Puis, s'il faut couper les deux extrémités sans écraser la mine, ni salir la section visible par le frottement des résidus de mine sur le bois. Cette opération délicate s'est longtemps effectuée à la main. Il reste à appliquer la raison sociale de l'entreprise et la marque du crayon, ce qu'on appelle communément le timbre. Sec ou humide, or ou argenté, grâce à une machine particulièrement adaptée et travaillant à de très fortes cadences. Enfin, intervient le conditionnement. Les crayons sont assemblés par douzaines en les liant aux deux extrémités. 10 fagots, confectionnés de la sorte, sont réunis dans une feuille de papier découpée à cet effet et 2 fagots sont attachés extérieurement à l'ensemble empaqueté pour faciliter la montre. On obtient ainsi une crosse qui sera acheminée vers les papetiers, revendeurs, bureaux et administration. Le crayon a ainsi traversé les siècles et malgré le succès d'autres instruments d'écriture, a su imposer sa présence continuelle.
Hé, hey, monsieur, c'est seulement une chèvre.
Pourquoi faire ? Hein ?
Bah, pour mon mouton, tiens.
En ce qui me concerne, j'ai toujours avec moi mon critérium 4B pour noter des mots méconnus, pour faire mes sudoku ou simplement établir ma liste de courses. Et vous, utilisez-vous ce petit crayon gris ?
Texte original.
Je vais vous raconter l'histoire de Charbet Néry. Cette histoire, je l'ai écrite. Elle m'a été inspirée par un ami très proche, un ami que j'affectionne particulièrement. Et cette histoire, je l'ai écrite pour plus d'amour, plus de tolérance. Charbet Néry naquit sur un malentendu. Gaston, ariégeois profond, avait rencontré Mireille, la citadine toulousaine. C'était lors d'une fête de mariage dans les années 50. Après cette rencontre improbable, Charbet poussa son premier cri 9 mois plus tard. Pendant les longs mois de ce premier hiver, le feu crépitait dans la cheminée de la petite maison de pierre de Larnat. Charbet y coulait des heures paisibles, au chaud, dans un douillet berceau près de l'âtre. Sa mère le berçait à longueur de journée, le regard vague, dirigé vers la fenêtre. Ses pensées coulaient dans la vallée pour rejoindre la plaine toulousaine. Au premier rayon de soleil du printemps, un matin d'avril, alors que Gaston était au bois, Mireille rassembla quelques affaires, prit son enfant dans ses bras et marcha plus de 5 kilomètres jusqu'à l'arrêt du bus qui se trouvait à côté de la halle. Destination Toulouse. Charbet ne revit son père qu'à l'âge de 22 ans. Mireille s'était remariée avec un homme suffisant et autoritaire, avec lequel elle avait eu un deuxième enfant, le merveilleux petit François. Le couple et les deux enfants vivaient dans la maison familiale, fermement dirigée par une belle-mère acariâtre et haineuse. Charbet, enfant ignoré, a grandi comme il a pu en ce milieu hostile. Mireille en souffrait beaucoup, mais en silence. Les gens se pressaient vers la galerie Lambert. C'était soir de vernissage. Les toiles de Charbet étaient accrochées au mur de cette galerie parisienne et remportaient déjà un vif succès. Il savait si bien raconter des histoires avec les lignes, les courbes, les couleurs. Pourtant, il a souvent entendu « Charbet, tu n'es bon à rien !» C'est ce que répétait inlassablement son beau-père. Alors Charbet ne disait mot, il s'isolait dans sa chambre et prenait le pinceau. La terre de Sienne, le rouge carmin, le bleu outre-mer illuminaient alors sa vie intérieure. Jack Harvey était venu de Londres pour ce vernissage. Vous vous rendez compte? Il comptait bien exposer les acryliques de Charbet Néry dans sa galerie. Les retrouvailles, ou plutôt la découverte du père. 22 ans plus tard, ce fut finalement assez simple, sans débordement affectif. L'émotion semblait absente, ou du moins bien masquée. Il est son père, ok. Il est son fils, d'accord. C'est tout. Et depuis, Charbet voit son père une ou deux fois par an, mais pas plus. Les jours d'hiver, Gaston peint lui aussi. Mais il peint avec de la gouache. Il peint des paysages bucoliques sur des bouts d'ardoise, dans sa maison de pierre à Larnat. Il y avait l'officier d'état civil, les témoins, les amis, un peu bruyants, son frère François et sa femme, Mireille sa mère et Gaston son père. Mireille, le cheveu fraîchement permanenté, dans un élégant tailleur parme qui qui signifie d'ailleurs qu'elle portait encore le demi-deuil de son second mari. Elle se tenait à côté de Gaston. Gaston, lui, avait perdu une jambe d'avoir trop fumé de gitane papier maïs. L'officier d'état civil dit très solennellement « Charbet, voulez-vous prendre pour époux Alexandre, ici présent ?» Mireille était émue aux larmes. Gaston, lui, du haut de ses montagnes pyrénéennes, n'aurait jamais pensé que chose pareille fût possible. Et pourtant, Charbet et Alexandre vivent très 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 heureux, mais n'ont jamais eu d'enfant.
C'est l'heure de la
musique chronique,
génération,
nous vous racontons
la petite histoire
cachée derrière
une grande chanson.
J'ai envie de partager avec vous une chanson d'Alice Cooper de 1970, I'm 18. J'écoutais cette chanson quand j'avais 18 ans. J'aimais le mélange de tristesse et de rage qu'on y trouvait, et les paroles me parlaient. Mais je ne savais pas alors ce qu'elle racontait au fond. Elle parle de la frustration d'un adolescent américain. Il faut savoir qu'à cette époque, à 18 ans aux États-Unis, vous ne pouviez pas voter, mais vous pouviez être recruté pour partir vous battre au Vietnam. C'est vrai que moi, quand j'avais 18 ans, je n'avais jamais fait le lien entre le texte et la guerre du Vietnam. Je vais avoir 63 ans et j'aime toujours autant cette chanson. Eh bien oui, à 63 ans, on n'est pas obligé d'aimer uniquement l'accordéon et Annie Cordy. Donc oui, j'aime toujours cette chanson. Peut-être différemment. Peut-être que j'en ressens plus la tristesse et le désespoir que dans ma jeunesse, mais je l'apprécie toujours. Et peut-être qu'au fond, je n'ai pas changé tant que ça. Je me demande si les teenagers d'aujourd'hui l'aimeraient. Je vous propose de l'écouter. J'ai 18 ans et je ne sais pas ce que je veux. Je suis paumée tous les jours. J'ai 18 ans et je dois m'évader. Je dois sortir de cet endroit. Je suis au milieu de ma vie. Je suis à la fois un enfant et un homme. J'ai 18 ans et j'aime ça.
Oh, lights fall on my face. Une fable d'une autre fontaine.
Depuis fort longtemps, je suis sensible aux chansons-films de Claude Nougaro. Texte-image, musique, bande originale. Jeune, son ambition n'était pas de chanter. Le père occupait largement la place, mais d'écrire. Journaliste un temps, mais surtout poète. Et même si la musique s'est si bien mélangée à ses mots, on peut sans elle se régaler des images puissantes évoquées par ceux-ci.
Le coq et la pendule.
Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Tous les goûts sont dans la nature. D'ailleurs, ce coq avait bon goût, car la pendule était fort belle, et son tic-tac si doux, que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, de l'aube jusqu'au crépuscule, et même la nuit, comme un hibou, l'amour le rendant coctambule. Des cocoricos plein le cou, le coq rêvait à sa pendule du Poitou. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ça faisait des conciliabules chez les cocottes en courroux. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail, ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou qui nous méprise et qui ne nous donne jamais un petit coup dans l'aile? Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ah, mesdames, vous parlez d'un Jules, le voilà qui chante à genoux. Oh, ma pendule, je t'adore. Oh, laisse-moi te faire la cour. Tu es ma poule aux heures d'or, mon amour. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Il est temps de venir à bout de cette fable ridicule, de cette crête à testicules qui chante l'aurore à minuit. Il avance, ou bien je recule, se disait notre horlogerie, qui trottinait sur son cadran du bout de ses talons aiguilles, en écoutant son Don Juan lui serinait sa séguédille. Pour imaginer son trépas, point n'est besoin d'être devin. La pendule sonne l'heure du repas, coq au vin.
Mon amour,
Projet Génération, c'était un spectacle, et ça le redeviendra, et c'est aujourd'hui une émission radio.
Et toujours un rendez-vous artistique et d'expression réalisé dans le cadre de l'association Artis. Il est financé par le Conseil départemental de Haute-Garonne et la Conférence des financeurs, en partenariat avec Radio de la Save, bien sûr. Nous invitons nos 60 ans et plus à rejoindre l'aventure de Génération.